Rubrique d'hiver. Argentine, 29 et 30 mai 1969, le soulèvement de Cordoba. Les 29 et 30 mai 69, dans la ville industrielle de Cordoba, la deuxième ville d'Argentine, les ouvriers et les étudiants affrontèrent la police et l'armée. Il y eut jusqu'à 50 000 manifestants dans une même journée et la répression fit plusieurs dizaines de morts. De Perón à Onganía. En 1955, Perón avait été chassé du pouvoir par les militaires. Même si des civils avaient occupé ensuite le devant de la scène, l'armée continua de peser sur la vie politique, avant de reprendre directement en main les rênes du pouvoir en 1966, avec comme première préoccupation de remettre au pas une classe ouvrière turbulente. Après la chute de Perón, la CGT, épine dorsale du parti péroniste désormais interdit, resta intégrée à l'appareil d'État, même si ses locaux ne lui furent restitués qu'en 1961. Les mœurs de ses dirigeants n'avaient rien à envier au gangstérisme de ceux des syndicats nord-américains. Il leur arrivait de recourir au meurtre pour écarter des syndicalistes combatifs ou simplement des concurrents, comme le fit Vandor, principal dirigeant de la CGT. Entre 1947 et 1965, la ville de Cordoba avait connu un important développement industriel. Perón et plus encore ses successeurs avaient essayé d'attirer des industriels étrangers. Ainsi s'implanta le constructeur automobile américain Kaiser. Il démonta une usine de Détroit pour la réinstaller à Cordoba et devint le principal sous-traitant automobile de divers constructeurs, dont Renault. S'installèrent également Fiat et Ford, General Motors, Chrysler, Mercedes, Citroën et Peugeot. La population de la ville avait doublé pour atteindre plus de 700 000 habitants, des dizaines de milliers d'ouvriers étant venus de tout le pays pour travailler dans l'industrie automobile. Quelques syndicats avaient des mœurs plus démocratiques, comme le syndicat Lumière et Force, syndicat de l'énergie, dont le principal porte-parole, Agustín Tosco, fut aussi un des principaux dirigeants des journées de mai 69. Ce syndicat, affilié à la CGT, se tenait à l'écart des courants officiels et tenait compte de l'avis de sa base. Quand le général Onganía arriva à la tête de l'État en 1966, la bureaucratie syndicale, Vandor en tête, participa à la cérémonie au palais présidentiel. Cela n'empêcha pas le nouveau président de réprimer durement les grèves qui éclatèrent dans le secteur des entreprises nationales. Cheminots, dockers, ouvriers des sucreries, tous menacés par des restructurations. Cette situation divisa la CGT en trois fractions. Celle qui cherchait à collaborer avec Onganía et à se dégager de la tutelle de Perón, les partisans de Vandor en quête d'un accommodement entre Onganía et Perón, et enfin la CGT des Argentins, CGTA, dont la devise était « Mieux vaut l'honneur sans les syndicats qu'un syndicat sans honneur », et qui allait rompre avec la CGT en mars 68. Aux élections professionnelles de juin 68, elle obtint 650 000 voix contre 785 000 pour les partisans de Vandor. Dans cette CGTA militaient des péronistes et des catholiques de gauche, entre guillemets, des membres du Parti communiste et divers courants de l'extrême gauche. Si elle était forte dans plusieurs secteurs, la plupart de ses dirigeants restaient des bureaucrates péronistes, à l'exception de Tosco et de son syndicat de l'énergie. Perón soutint d'abord la CGTA, puis se réconcilia avec Vandor. Du coup, certains bureaucrates de la CGTA retournèrent à la CGT. La riposte ouvrière. En mars 67, le peso, la monnaie locale, fut dévalué de 40% et les salaires gelés pendant 20 mois. L'âge de la retraite fut repoussé de 55 à 60 ans, les allocations de licenciement abaissées. Le chômage explosa. Cordoba comptait 10% des 600 000 chômeurs recensés dans le pays. À partir de mai 68 et jusqu'en 69, les grèves se multiplièrent. La suppression par décret gouvernemental de la « semaine anglaise », entre guillemets, 44 heures de travail hebdomadaire payées 48, révolta d'autant plus les ouvriers qu'elle suivait une vague d'augmentation des prix de produits indispensables, de ceux du lait à ceux des transports. Le 13 mai 69, plusieurs sections syndicales de Cordoba se réunirent pour préparer une riposte. La police dispersa cette réunion avant même qu'elle n'ait annoncé 48 heures de grève les 15 et 16 mai. Et la police fut prise à revers par les ouvriers de Renault venus en nombre. L'agitation s'étendit aux autres usines de l'agglomération. En même temps, les étudiants protestaient contre l'augmentation du prix de la cantine, plus 537%. Et le 18 mai, à Rosario, la troisième ville du pays, à mi-chemin entre Cordoba et Buenos Aires, il y eut une émeute après l'assassinat d'un étudiant par la police. Le 19 mai, l'université de Cordoba était fermée par les autorités. À Rosario, 40 000 personnes descendirent dans la rue et affrontèrent avec succès la police. Le 23, c'était le tour de 30 000 étudiants de Cordoba. Le 21 mai, les syndicalistes de l'automobile votèrent une grève de 48 heures pour le 29 mai. Le 27 mai, le principal dirigeant de la CGTA, Ongaro, était arrêté à son arrivée à Cordoba, où il venait organiser le mouvement. Le 28 mai, le gouvernement déclara grévistes et manifestants passibles du conseil de guerre. Tous les syndicats et les étudiants se rallièrent cependant à la grève, tandis que les assemblées générales se multipliaient dans les entreprises. Et le 29 mai, à 11h du matin, plusieurs colonnes de manifestants ouvriers convergèrent vers le centre de la ville. Des ouvriers à moto assuraient la liaison entre les colonnes de manifestants. Les travailleurs des petites entreprises ou des artisans rejoignaient le cortège. Au centre-ville, les policiers établirent des barrages et arrosèrent les manifestants de gaz lacrymogène. Bientôt, les ouvriers dressaient des barricades et la manifestation tourna à l'émeute. Les travailleurs attaquèrent les commissariats et en expulsèrent les policiers. La société américaine Xerox fut incendiée, le cercle des sous-officiers de l'armée et le bureau des douanes occupés. Dans d'autres quartiers, ouvriers et étudiants affrontaient la police montée. En fin de journée, le centre-ville et les bâtiments officiels étaient occupés par les manifestants. L'armée prend la répression en main. L'état de siège fut décrété. L'armée prit le relais de la police, débordée. Des colonnes de chars et des milliers de soldats convergèrent vers la ville. Les électriciens coupèrent alors l'éclairage de la ville. Cela désorienta les militaires et permit aux manifestants d'échapper à leurs tirs. Les manifestants gardèrent le contrôle de la ville, mais hésitaient sur la suite à donner. L'armée n'hésita pas, arrêtant au petit matin du 30 mai ceux qu'elle considérait comme les leaders du mouvement, notamment Tosco. Les syndicalistes arrêtés furent condamnés, séance tenante, à des peines de 4 à 8 ans d'emprisonnement. Le 30 mai, la CGT et la CGTA appelaient à une grève générale qui fut totale dans tout le pays. Mais le 31 mai, l'armée reprenait l'offensive, faisant entre 20 et 30 morts et des centaines de blessés et saccageant les locaux syndicaux. Des centaines de militants étaient arrêtés. Le 2 juin, le syndicat de l'automobile appelait à la grève pour exiger l'arrêt de la répression et la libération des emprisonnés. Ongaro fut relâché. La CGTA proposa à la CGT une grève générale pour les 16 et 17 juin. Le gouvernement décréta le 16 juin pour jour férié, mais cela n'empêcha pas les rassemblements ouvriers. Une nouvelle grève fut décidée pour le 1er juillet, mais cette fois sans la CGT. L'état de siège allait durer jusqu'en 1973, obligeant bien des militants ouvriers à entrer dans la clandestinité. Ce soulèvement de Cordoba eut évidemment un grand retentissement. Il fut considéré comme le mai 68 argentin. Mais il avait aussi ses propres limites. Chez les ouvriers, la majorité ne mesura pas les limites du syndicalisme et l'impasse politique qu'était le péronisme. Chez les étudiants, les plus combatifs continuèrent de chercher dans la guérilla le débouché politique qui avait manqué au cours de ces journées, là où il aurait fallu bâtir un parti révolutionnaire enraciné dans la classe ouvrière. La répression n'empêcha pas la combativité ouvrière de rester forte les années suivantes, et c'est pourquoi, lors de leur nouveau coup d'État de 1976, l'un des objectifs des militaires fut non seulement d'arrêter et assassiner les militants politiques, péronistes ou d'extrême-gauche, mais d'abord de supprimer les militants et les ouvriers combatifs que les militaires vinrent cueillir dès les premières heures du coup d'État à l'entrée des usines au petit matin. Jacques Fontenoy.